Marie Webb, Le précieux fléau. Livre 2, chapitre 4. Le sorcier de Plache. Noël arriva sans que rien ne soit venu troubler le calme habituel, sauf si l'on veut bien compter le moment où l'on a tué le cochon. Il ne vint personne durant les fêtes, d'ailleurs. D'où aurait-on bien pu venir et pourquoi? Mère ne se sentait pas bien, et comme elle toussait, elle garda le lit, si bien que je ne pris pas de leçons avant la nouvelle année. Le jour de l'an, j'y allais, et comme j'ai toujours préféré payer d'abord, j'emmenais les bœufs directement dans le champ que je devais labourer pour Begildi. Il avait horreur de labourer, aussi pour chaque leçon, et je dus en faire des sillons. Je labourais pratiquement aussi bien que la plupart des hommes, mais certes moins bien que Gédéon. Il réussissait le sillon le plus droit que j'ai jamais vu. Il lui était impossible de faire médiocrement la moindre chose. Quoi qu'il fît, que ce fût destiné à être vu ou non, que ce fût réalisé une fois pour toutes ou quotidiennement, il l'accomplissait comme si sa vie en dépendait. Rien n'était à demi fait. Il assemblait la paille en meule, même celle qu'on allait défaire immédiatement pour l'utiliser, avec autant de soin que s'il avait travaillé pour obtenir la médaille des faiseurs de meules. Besognant tout seul dans les champs, coupant les haies ou liant des gerbes, avec pour seul témoin une traînée de nuages et les bois qui flottaient dans la vapeur d'été, il le faisait avec le même courage que ceux qui veulent se montrer dans les foires. Certaines fois, je trouvais dommage qu'il se privât à ce point de repos. Et d'autres fois, j'imaginais une foule de gens, des fermiers qui observaient, un juge assis sur son chariot ou trottant de ci de là sur son bidet. Et j'arrivais presque à entendre les murmures de la foule, des moqueries quand Gédéon ratait son coup, un bruissement de joie quand il réussissait. Et la voix du juge proclamant d'une voix forte « J'attribue le prix à Gédéon Sarne, le meilleur homme, pour tailler une haie, lier une gerbe, élaborer un champ. » Puis je revenais à moi, et je ne voyais que les grands nuages qui n'avaient pas bougé, les haies, toujours si hautes, dont les pieds étaient fleuris de reines des prés, les bois et les collines, des alouettes suspendues dans l'air bleu voluptueux, comme par un fil, et qui se secouaient tellement en s'égosillant de joie qu'on aurait pu craindre pour ce fil. Elle ne se souciait aucunement de savoir qui gagnerait le prix ou qui gazouillait le mieux et le plus fort, du moment qu'elles gazouillaient toutes et qu'aucune n'était privée de nid, de récolte à manger, de rosée à boire et d'espace pour chanter. Je pensais à tout cela pendant que je labourais les 5 acres de terre de Plache avec les bœufs blancs qui paraissaient jaunâtres, à côté de la gelée blanche répandue sur la terre comme un linceul, mais qui cependant n'était pas durci au point d'empêcher le travail. À mesure que la lame de la charrue avançait, la terre retournée brillait d'un beau brun rouge, et les corbeaux, terriblement affamés, les pauvres bêtes, suivaient derrière, marchant gravement dans les sillons. Un moment après, Jensis arriva en courant depuis chez elle avec sa mère, toute impatiente de m'apprendre ses fiançailles avec Gédéon et la grande colère de Begildi. Jensis était véritablement aussi ravissante qu'une fée avec son visage rose et ses boucles blondes. Madame Begildi arriva après, essoufflée, le tablier au vent et bien chargée de nouvelles comme une frégate française, dont on disait qu'elles étaient toujours si lourdement remplies. « Mais, s'exclama-t-elle, nous n'allons pas rester là à avoir faim comme les corbeaux. Viens donc à la maison prendre un bon thé. Sarne m'en a apporté une boîte d'enivre, pas moins. » Je savais qu'il devait être bien amoureux pour en avoir apporté plus d'une demi-livre, mais je ne dis rien. Je me contentais de finir mon sillon et de détenir les bestiaux. « Nous pourrons parler tranquillement parce que papa est occupé dans sa chambre à soigner la Polly du meunier, » dit Jensis. « Qu'est donc Polly ?»« Demande plutôt ce qu'elle a pas, cet enfant, » répondit Madame Begildi. D'abord, elle a attrapé la coqueluche, et maintenant c'est la teigne. Elle a toujours quelque chose. Il l'a placée sur une chaise avec un collier d'oignons frits autour du cou. Et pour les préparer, j'ai bien versé plusieurs pannes de larmes. Ne sois jamais la femme d'un sorcier, Prou. C'est pareil à ce qui est écrit dans le livre saint. Et j'aurais aimé pouvoir aller à l'église chrétienne pour l'entendre. On y dit « Je meurs chaque jour ». Ah, c'est comme ça, être femme de sorcier. Quand c'est pas les oignons, c'est quelque chose d'autre. J'ai failli me casser le cou en allant chercher du lichen sur les cloches de l'église. Pour cette même enfant? Pour la guérir de la varicelle. Le maître étant bien trop paresseux pour aller le prendre lui-même. T'inquiète pas, maman. Quand je serai mariée, je m'occuperai de toi, dit Jancis. Je ne pouvais que soupirer à l'idée de ces projets qu'ils faisaient tous, alors que chaque projet contredisait celui des autres. Je mis les bœufs dans l'étable et pénétrai dans leur maison. Il y avait un bon feu et une agréable odeur de thé. Et je me sentis un peu contente, même si ce n'était pas bien gentil, que Polly soit une si fragile enfant, parce qu'alors Maguddy devait prendre du temps pour la soigner. Mère disait toujours que si les enfants du meunier étaient fragiles, cela venait de ce que la fée des eaux de la mare sous le moulin avait lancé son regard sur la mère, alors qu'elle était enceinte d'eux. Mais Gédéon disait que c'était parce qu'ils étaient nourris de farine dans laquelle les rats étaient passés. Tandis que Madame Béguidé prétendait que c'était parce qu'on les envoyait à son mari pour être soignés. Une dose de soufre et de mélasse, voilà ce qu'il faut, avec de la bonne nourriture. Mais il n'y a pas de bon pain au moulin, comme il n'y a pas de bon beurre à la ferme. Vu que ça vaut de l'argent, les gens de la maison n'ont que les restes. Juste alors, la tête de Béguidé surgit dans l'embrasure de la porte et l'homme, regardant sa femme d'un air rêveur, lui demanda « Je voudrais du beurre de mai. »«
Du beurre de mai ? » ?»«
Demande carrément de l'or tant que tu y es. »« Comment diable peux-tu penser que je puisse avoir du beurre de mai, ou de juin, de juillet, ou quelque autre beurre, alors que nous vendons ?» le moindre morceau à peine sorti d'un baratte, et qu'en fait de graisse, nous n'utilisons que du lard. Je suis obligé d'avoir du beurre de mai, ou le sortilège ne fonctionnera pas. C'est pour faire quoi? C'est pour frire de l'aubier de sureau, qui guérit de la coqueluche. Eh bien, vociféra Madame Maguidy, elle risque fort de mourir de la coqueluche avec tout le beurre qu'elle pourra trouver chez nous, qu'il soit de mai ou de décembre. Alors vint de l'intérieur de la chambre un terrible hurlement parce que la pauvre Polly se crut aux portes de la mort. Va plutôt lire dans tes vieux bouquins et trouve quelque chose de plus facile, dit Madame Maguidy. J'ai mieux à penser qu'à tes sortilèges.
Tu racontes n'importe quoi, femme. Tu penses voir notre Jancis mariée et prête à te donner un petit enfant. Mais je te le dis, tous les serments ne finissent pas à l'église. Toutes les bagues ne conduisent pas au mariage. Tous les jeunes mariés n'épousent pas leur vierge, et puis j'aime pas cette alliance. Le vieux sar ne me blâme encore pour un écu que pourtant il ne peut utiliser là où il est. Et, je te le dis, le jeune sar est né sous la planète des quatre sous, et ne gardera donc pas son argent. De plus, il dort sur le ventre, c'est la position des noyés. Ma fille n'est pas pour Sarne. Tu peux passer au-dessus de ma volonté, tu peux envoyer des invitations à une veillée d'amour, fort bien. Mais, de toute façon, je la donnerai à un prétendant beaucoup plus riche. Et pourquoi pas? Elle est aussi blanche qu'une dame et aussi saine qu'une pomme de terre de qualité. Pas un châtelain, pas même un seigneur, ne refuserait de coucher à ses côtés. Mais sans se marier avec elle. Et alors, il paierait, pas vrai?
Après ça, Jancis se mit à hurler et pleurer tout comme Polly. Maguidy retourna dans sa pièce et nous nous mîmes en devoir de la réconforter. Nous nous rapprochâmes du feu avec notre thé et finîmes par décider que je devais écrire les lettres d'invitation pour la veillée d'amour. « Et puis nous aurons les gâteaux traditionnels, » dit Madame Béguédé. « On fait de l'argent avec ça, et le tisserand viendra 2 ou 3 jours tisser tout ce qu'on a filé. »
Jensis battit des mains. « Oh !» dit-elle. « J'aime énormément les fêtes. »
« Ah, tout comme moi.
Oh, et les gâteaux, quelle merveille. Oh, j'aime Gédéon pour m'avoir demandé en mariage. »
Pendant tout le temps que nous parlions, la pauvre Polly toussait et haletait douloureusement, tandis que Béguédé criait « Assez maintenant, tais-toi, je te dis, sapristi, tu es gris !»
Puis Madame Béguédé me demanda d'écrire ses invitations afin qu'elle puisse les voir. C'est ce que je fis, et elle fut ravie, bien qu'elle n'arrivait pas plus à lire ce que j'avais écrit que 2 papillons d'une haie ne peuvent déchiffrer une borne.
« Écris encore, » ajouta Madame Béguédé, « que Chancis, fille unique de Monsieur Félix Béguédé et de Hepsiba, sa femme, est promise et fiancée à Monsieur Gédéon Sarnes, fermier vivant sur ses terres à Sarnes. Et écris qu'ils se marieront aussitôt que possible, et que Jensis les invite à une veillée d'amour.
Écris, interrompit M. Béguédé, pointant à nouveau sa tête dans la pièce,
que vous êtes une bande de folles et que ce mariage ne se fera pas avant que l'étang de Sarnes ne s'enfonce dans la terre d'où il vient. Parce que j'ai vu, au travers d'un verre teinté, un jeune châtelain galopant par ici, les poches pleines d'écus.
Quand Polly partit en toussant aussi péniblement qu'avant, j'allai dans l'autre pièce pour ma leçon, en donnant à Jensis une petite tape sur l'épaule, parce que j'étais bien désolée pour elle. Elle ressemblait plus que jamais à une fleur d'aubépine par une froide journée de pluie.
« Bon, à nous maintenant, » dit M. Béguédé. « Tu as sans doute abourré un bon bout, n'est-ce pas ?»«
Oui. »«
Bien, que vais-je donc t'apprendre ?»
Apprenez-moi à écrire, le mariage vient du paradis, monsieur.
Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Il eut un petit rire. Astucieuse demoiselle, astucieuse demoiselle. Mais tu n'auras pas le dessus avec moi. Tu écriras plutôt. Ne te mêle pas de choses qui te dépassent.
Un sorcier qui connaît l'avenir des gens de son comté ne pourrait-il connaître ce qui est mieux pour les siens ?
Qu'on la laisse tranquille, monsieur. Elle en a bien assez, la pauvre enfant, avec son destin et une tête de mule comme Gédéon. Si vous vous en mêlez, vous pourriez faire un mal irréparable.
Assez ! J'ai dit ce que j'ai dit. Ne m'ennuie pas.
Il se mit à pianoter un petit air, ce qui était signe qu'il était à bout de patience.
Au tintement des notes, je savais qu'il était inutile de continuer à argumenter, car de même que sa musique sur silex n'exhalait ni force ni délicatesse comme peuvent le faire quelques notes sorties d'une harpe ou d'un violon, de même ses qualités ne se trouvaient pas en son âme. Le silex rendait un son petit et froid, parce que c'est un objet petit et froid. Quant à Béguédé, il n'avait pas de compassion, parce qu'il n'avait pas de force. En effet, ce ne sont pas les mauviettes qui éprouvent le plus de compassion, mais les hommes forts, qui savent se maîtriser. Ils peuvent s'en affranchir, comme l'a fait mon frère. Cependant, cette compassion peut les reprendre un jour, et plus longtemps ils l'auront ignorée, plus fortement elle s'installera. Ah! Cela peut même devenir si intense que l'homme en arrivera à détester sa propre vie.